Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur les centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, les CMEA, et leurs pratiques autour du logiciel libre. J'ai le plaisir d'avoir en studio avec moi Jean-Luc Cazaillon, ancien directeur général et militant au CMEA, et Morgane Perroche, permanent des CMEA, qui travaille notamment sur les dimensions européennes et internationales du réseau. Également avec moi en studio, Laurent Costi, vice-président de l'April, chroniqueur, un des chroniqueurs de Libre à vous, avec qui j'aurai le plaisir de co-animer cet échange. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Eh bien, je vous propose de commencer, somme toute, de manière très classique, par un tour de table de présentation. Jean-Luc Cazaillon, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pourriez vous présenter, peut-être, en quelques mots?
Oui, donc...
Ou te présenter, je pense qu'on peut se tutoyer,
on
d'ailleurs.
On peut se tutoyer, ouais. Tout à fait. Donc, voilà, Jean-Luc Cazaillon, je suis effectivement ancien directeur général des CMEA. J'ai quitté mes fonctions au 1er septembre dernier. Mon parcours professionnel, c'est d'abord d'être enseignant. J'ai été enseignant pendant une quinzaine d'années. Et puis, ensuite, permanent des CMEA, d'abord en Haute-Normandie, où j'ai assumé les fonctions de directeur des CMEA de Haute-Normandie, de Rouen, donc, et puis ensuite une arrivée à Paris en 2004.
Morgane Perroche, bonjour.
Bonjour. Alors moi, mes débuts avec les CMEA, ça a commencé par la Fédération internationale des CMEA, donc qui regroupe une quarantaine d'associations des CMEA à travers le monde. C'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré du coup les CMEA France, avec, qui est mon étiquette aujourd'hui, puisque je travaille avec les CMEA France depuis maintenant janvier 2021, officiellement, et notamment sur la dimension européenne et internationale des CMEA.
Super. Laurent, toi, tu es membre du CA de l'April, donc tu es même vice-président, je l'ai dit. Et dans ton engagement militant, tu es particulièrement sensible aux enjeux de l'éducation populaire et du logiciel libre dans le monde associatif. Mais ce n'est pas uniquement à ce titre que tu interviens aujourd'hui dans cet échange. Tu es toi-même récemment rejoint les CMEA. Tu peux peut-être justement préciser ce qu'il en est et de quelle position tu interviens.
Oui, effectivement, j'ai une position un tout petit peu particulière. Je vais être à la fois animateur et puis j'ai commencé à mettre un pied au sein de l'équipe salariée des CMEA à partir du 1er septembre. Ça n'a rien à voir avec le départ de Jean-Luc tout à l'heure. Mais néanmoins, effectivement, je vais prendre la suite d'une mission qui existait déjà sur la question du libre au sein du mouvement et même à l'extérieur. Donc voilà, on peut pas dire que je suis vraiment pour l'instant dedans parce que je n'ai pas encore fait la formation GRAF. Alors c'est une blague interne que mes camarades vont comprendre, mais voilà, donc je suis pas encore tout à fait dedans, ce qui me donne une position un petit peu intermédiaire, ce qui est assez intéressant parce que j'ai des questions un peu de nouvel arrivant qui vont être assez intéressantes, je pense, pour le déroulement.
Super. Peut-être qu'on va commencer par la première question qui me paraît assez classique. C'est quoi les CMEA? Comment ça fonctionne? Je pense que Laurent, tu seras peut-être pas mal pour animer cette partie de l'échange.
Oui, alors du coup, moi je vais en apprendre aussi à ce moment-là. Je pense que je vais me retourner là vers Jean-Luc par rapport à un peu les grandes dates des CMEA. Alors effectivement, on a qu'une heure, hein, Jean-Luc, hein, donc enfin moins d'une heure même, donc faut pas non plus refaire toute l'histoire, mais disons que les grandes dates des CMEA, de l'éducation nouvelle, qui est peut-être quelque chose de très particulier aux CMEA.
L'éducation nouvelle n'est pas particulière au CMEA. Il y a plusieurs mouvements associatifs aujourd'hui qui se revendiquent de l'éducation nouvelle. Donc les CMEA font partie de cet ensemble. Mais je ne revendiquerai pas ici une spécificité, une singularité propre. Grande date, j'en donnais une, la naissance des CMEA, 1937. Voilà. C'est symbolique parce que c'est juste après le Front Populaire et c'est l'apparition des colonies de vacances et puis la préoccupation des fondateurs des CMEA de la formation des cadres qui allaient s'occuper des enfants durant le temps de vacances. Et c'est là où est né on dirait aujourd'hui, le premier stage de formation, sauf qu'en 1937, ce concept-là n'existait pas. Et donc, c'est le premier centre d'entraînement où des éducateurs viennent s'entraîner, pratiquer ensemble de nouvelles méthodes d'éducation qu'on appelle l'éducation active. Les CMEA, c'est parti de là. Et puis après, c'est un élargissement des champs de préoccupation, des colonies de vacances, donc du monde des loisirs. On est passé bien sûr au monde de l'école. Comment parler d'éducation aujourd'hui sans s'intéresser à ce qui se passe autour de l'école, dans et autour de l'école? Et puis bien sûr, la santé mentale, la psychiatrie, parce que les questions de vie collective, de vie quotidienne, de relations entre médecins, patients, parents, touchent aussi l'ensemble des champs d'intervention, et notamment celui de la santé. Et puis bien sûr aussi une application assez rapidement présente au sein du mouvement qui est celle du monde de la culture, avec notamment le Festival d'Avignon où Jean Villard vient chercher les CMEA en 1954 pour essayer de faire que le Festival d'Avignon accueille des publics qui n'y viendraient pas spontanément. Donc culture, éducation, animation, jeunesse, tout ça fait partie d'un peu de l'histoire du mouvement qui a grandi au fil des ans et qui est encore présent aujourd'hui.
Merci.
Alors, on avait effectivement perdu le réseau, donc je vous propose, voilà, peut-être pour les personnes qui nous rejoignent et qui interviennent, du coup, qui arrivent en cours d'échange, je vais repréciser très rapidement que nous discutons des CMEA, donc les centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, et de leurs pratiques autour du logiciel libre. Nous venons d'entendre Jean-Luc Cazaillon, qui est l'ancien directeur général et militant au CMEA, Morgane Perroche, qui est une des permanentes du mouvement, qui travaille notamment sur les dimensions européennes et internationales du réseau, et je suis avec Laurent Costi, qui est à la fois membre du conseil d'administration de l'April et qui vient d'arriver dans l'équipe des permanents du CMA, qui va intervenir un petit peu dans ce avec ses deux doubles casquettes, mais qui va apporter justement un regard que je pense intéressant. Et je pense qu'on peut passer. Je te rends la parole, Laurent.
Oui, alors du coup, moi, la question que j'avais, c'était aussi le lien avec l'éducation nationale. Comment peut-être le retracer au fil de l'histoire? Parce que je découvre effectivement une forte... les CMEA sont complémentaires de l'éducation nationale, sont un organisme complémentaire.
Oui,
est-ce que tu peux en dire un peu plus, peut-être, par rapport à ça?
Le lien, il commence simplement, en fait. Les premiers militants et les premières militantes des CMEA, ce sont les enseignants. En fait, à l'époque où on s'occupe des colonies de vacances en 1937, 38, 39, 40 et après, ce sont les enseignants qui sont militants, qui viennent dans des centres, donc dans des stages pour se former et qui participent à l'encadrement des colonies de vacances. Donc la première histoire du rapport des CMEA avec l'école, c'est l'accueil d'enseignants dans un espace militant nouveau pour eux et pour réfléchir à des pratiques éducatives en dehors de l'école, en fait. Et donc cette perméabilité, cette complémentarité, elle s'est construite par l'engagement militant d'enseignantes et d'enseignants qui venaient chez nous. Ensuite, après, de fil en aiguille, je dirais, on a quand même développé un centre de compétences, des actions de formation, et donc on a travaillé toujours en lien avec l'éducation nationale. Et c'est là où on peut définir ou trouver la notion de complémentarité, c'est-à-dire que ce que l'on développe comme intervention aujourd'hui, à la fois dans l'école et hors l'école, se situe en complémentarité des programmes scolaires et des orientations, des différentes orientations des différents ministres qu'on a pu croiser.
D'accord, merci. Est-ce qu'éventuellement tu peux expliquer un peu ce qu'est l'éducation nouvelle, en quelques mots aussi, avant de passer peut-être à l'organisation du réseau ?
L'éducation nouvelle, alors je vais faire simple, parce que la question qu'on nous pose, c'est pourquoi est-ce qu'elle est nouvelle encore aujourd'hui ? Elle le sera tout le temps, parce que l'éducation nouvelle, c'est l'éducation constamment renouvelée. C'est-à-dire qu'au lieu de se satisfaire de pratiques qui marchent et que l'on pourrait retranscrire, redévelopper, répéter, réitérer, sans rien changer d'année en année, l'éducateur qui milite ou qui agit en éducation nouvelle remet en cause ses pratiques constamment, chaque année, changement de public, changement d'orientation, changement de cadre, ça entraîne forcément des renouvellements. C'est cette dimension de la permanence du renouveau. Voilà, c'est ça qui caractérise l'éducation nouvelle. Et c'est un courant qui est d'éducation, qui est un courant, on pourrait remonter à Rousseau, mais voilà, Piaget, Vallon, Valo-Fréré, on peut trouver là Winnicott, beaucoup, beaucoup de références de noms de pédagogues, de psychologues, de philosophes qui réfèrent et qui ont alimenté le courant de l'éducation nouvelle avec cette approche d'une prise en compte de l'individu dans sa spécificité. Et la volonté de l'éducation nouvelle, c'est de faire que l'éducation soit active, c'est-à-dire que chacune des personnes, les élèves, les enfants, les adultes que l'on accueille, soient eux-mêmes porteurs de leur propre dynamique d'éducation.
Oui, on passe très très souvent par la pratique. Il y a toujours systématiquement une phase par la pratique. On rentre directement, il faut toucher, il faut essayer, expérimenter. Ça fait partie un peu de ces logiques.
Oui, et puis surtout, c'est faire en sorte que chacun puisse trouver les moyens de répondre à ses propres besoins. C'est la différence qu'il y a entre un programme préétabli pour tout le monde et cette dynamique-là, c'est que dans le programme préétabli, ça correspond à certains, mais pas à tous. Quand on est dans une dynamique d'éducation nouvelle, la recherche permanente que l'on a, c'est de faire en sorte que chacune des personnes qu'on accueille, dans une dynamique de formation, d'accompagnement, trouve et construise ses propres dynamiques éducatives. Je suis acteur de ma propre éducation.
Merci. Alors du coup, avant de passer à la question du libre au sein des CMEA, je voudrais juste qu'on aborde un peu le fonctionnement global des CMEA. Alors au niveau de la métropole, et puis Morgane peut-être nous parlera un peu de comment ça s'organise aussi à l'international et les actions qui y sont menées. Comme ça nous permettra aussi de voir peut-être la complexité qu'il y a à engager une démarche sur le libre.
Ben, les CMEA, c'est un peu moins de 400 salariés permanents aujourd'hui, un réseau de 5 à 6 000 bénévoles. Volontaires, militants, militantes, c'est comme ça qu'on se qualifie entre nous, présents en Hexagone et en Outre-mer. C'est une de nos spécificités, c'est qu'on est présent dans les 7 territoires d'Outre-mer, structurés en associations régionales, coordonné, animé par une association nationale qui est une tête de réseau en quelque sorte. Voilà un peu la structure et l'assise des CMA aujourd'hui.
Oui, les associations territoriales sont autonomes, ce sont des associations à part entière.
Il y a une forme d'autonomie politique, juridique, économique, mais il y a surtout l'appartenance à un même mouvement. Les CMA, c'est un mouvement militant d'éducation nouvelle, et cette unicité du mouvement, en appui sur la richesse que nous offre cette composition, cette réalité. Je laisserai Morgane après développer la dimension Europe internationale, mais c'est ça qui fait notre singularité. C'est donc un réseau d'associations avec une part d'autonomie, mais qui sont associées, militantes, engagées d'un même mouvement et un seul mouvement d'éducation nouvelle.
Morgane, peut-être sur la dimension internationale ?
Je peux compléter un petit peu. Donc, comme je vous le disais, moi, je suis arrivée directement dans la dimension internationale du mouvement des CMEA, donc avec la FICMEA, la Fédération internationale. De là, j'ai découvert un petit peu toute cette pluralité d'acteurs et d'actrices qu'il y avait à travers le monde et qui étaient dans la même dynamique en fait de la question de l'éducation nouvelle. J'ai aussi été très en lien, donc à échelle politique en fait, sur la Fédération internationale, sur la question de la marchandisation de l'éducation. Et c'est à travers cette dimension politique de la marchandisation de l'éducation que j'ai découvert tout l'enjeu du libre et pourquoi le libre avait sa place aussi dans cet aspect-là. Aujourd'hui, les CMEA, donc il y a la Fédération internationale des CMEA, mais il y a aussi tout le travail qu'on a avec des partenaires différents à échelle européenne et internationale et qui sont toujours dans cette dimension du coup de l'éducation nouvelle. Mais là, ce ne sont pas forcément des organisations CMEA. Étant donné que chacune d'entre elles, même au sein de la Fédération internationale, sont indépendantes.
Voilà. Merci. Bah, je vais repasser la parole peut-être à Étienne, qui va vous questionner un petit peu sur le libre au sein des CMEA.
Oui, bah, déjà, moi, la première question que j'aimerais me poser, c'est un peu comment s'est développée cette prise de conscience. Et c'est vrai qu'en entendant Jean-Luc, tu parlais d'être acteur de sa propre éducation. Et moi, venant plus du coup d'une association du logiciel libre et de ce mouvement-là, je faisais tout de suite un parallèle avec finalement nous, ce qu'on défend, c'est l'importance d'avoir un rapport politique éclairé, être acteur finalement de ces outils informatiques, sans être forcément expert, mais au moins d'avoir ce rapport politique pour avoir finalement être émancipé, enfin dans une logique d'émancipation. Donc le pont me paraît évident, mais j'imagine que ça n'a pas forcément été tout de suite évident au sein de votre mouvement, parce que bah, vous aviez d'autres sujets aussi à traiter. Alors comment s'est construite cette prise de conscience, et puis ensuite la décision de développer l'usage et la promotion du libre?
Il n'y a rien d'évident.
Non, jamais rien de si évident.
Il n'y a jamais rien d'évident. C'est une prise de conscience progressive. Mais ce que je peux dire, c'est qu'en fait, les premières approches du libre au sein du mouvement CMEA, ça a été porté par des militantes et des militants qui eux-mêmes étaient déjà engagés, convaincus, avaient une réflexion à la fois politique, une approche aussi, j'allais dire technique, c'est pas technique, mais je pense à la dimension aux communautés, en fait, hein, la dimension collective qui environne aussi et qui s'appuie sur ce que je connais de l'univers du libre. Donc ça a commencé par des préoccupations personnelles, des pratiques aussi qui ont fait tache d'huile après, souvent dans des équipes un peu restreintes à l'échelle territoriale. Et petit à petit, ça a fait tache d'huile parce qu'effectivement aussi l'environnement nous a amené à réfléchir sur ces questions-là. Il y a peut-être 15 ou 20 ans, on se posait beaucoup moins de questions sur la question de propriétaire, de ce qu'on faisait de nos données, de ce qui se passait quand on surfait sur Internet et comment on retrouvait les publicités adaptées au dernier site qu'on avait fréquenté. Et voilà. Donc on a aussi, on est aussi en phase avec un environnement qui a beaucoup bougé et qui nous a aussi petit à petit amené à interroger nous-mêmes cette réalité entre le rapport du monde propriétaire et du monde du libre. Mais d'abord les préoccupations individuelles, puis ensuite après des groupes, des collectifs qui se sont montés pour ensuite arriver à quelque chose qui prenait un peu plus d'ampleur à l'échelle du mouvement, mais surtout avec une première approche qui est une approche technique ou de résistance, en opposition avec des copains qui étaient au contraire très promoteurs, mais qui avaient du mal à se faire entendre parce que c'était pas un enjeu situé comme prioritaire, et puis parce que le libre à l'époque c'était pas joli, pas fonctionnel, voilà, et que il y avait beaucoup d'éléments qui jouaient en la défaveur de l'usager en fait. Quand on regardait ce qu'on faisait sur Internet, c'était moins facile de le faire avec OpenOffice à l'époque qu'avec Word pour ceux qui étaient les plus affûtés. Donc ça a pris du temps, tout ça. Ça a pris du temps jusqu'à effectivement une prise de conscience et une mission qu'on a installée il y a 3 années maintenant, pour essayer justement de développer et d'asseoir cette réflexion politique au sein d'un mouvement d'éducation comme le nôtre.
Oui, puis c'est vrai que ça a toujours été un sujet qui est politique, mais plus nos usages, c'est-à-dire la manière dont, enfin, plus les outils informatiques vont conditionner l'exercice de nos droits, nos relations intimes qui vont passer de plus en plus par ces outils-là, plus peut-être cette évidence politique apparaît comme telle, c'est-à-dire une évidence, et c'est pour ça que c'est important peut-être quand c'était moins évident, et excusez-moi de répéter ce terme, d'avoir des personnes qui sont en mesure dans la pratique,
qu'on pas lâché le morceau. Ça veut dire qu'en fait, c'était pas un effet de mode. C'était un enjeu fort, sauf que cet enjeu fort n'était pas identifié et repéré par toutes et tous. L'environnement, je redis, l'évolution dans la société aujourd'hui, la place du numérique aujourd'hui, fait que les préoccupations paraissent normales. Après, chacun se positionne ou il y en a qui se positionnent pas. Mais en tout cas, on peut pas échapper à cet enjeu-là. En plus, on sort d'un épisode, le confinement, qui a quand même révélé beaucoup, beaucoup de choses de ce point de vue. Mais à l'époque, effectivement, l'environnement était beaucoup moins pesant, beaucoup moins présent dans ces enjeux politiques. Et donc, il a fallu aussi convaincre à l'interne du mouvement pour y compris démontrer que cet enjeu politique était complètement en phase avec ce que l'on défend par ailleurs, ce que l'on promeut par ailleurs sur la question de l'éducation. Tu le disais, l'éducation active, c'est le rapport au pouvoir d'agir que j'ai moi-même sur ma destinée, ma vie, mon destin, mais aussi sur mes données. Et donc là, il y a des points de convergence évidents qui sont évidents aujourd'hui, mais qui ne l'étaient pas il y a 10 ou 15 ans, en tout cas pour le plus grand nombre.
Bien sûr que ça se construit, tout ça se construit. Et du coup, comment ça se construit au sein des CMA? Donc, on imagine qu'il y a d'abord tout un pan qui va être dans les usages quotidiens au sein de votre mouvement, et puis aussi dans le développement peut-être en termes de formation et de communication, de comment on se positionne libre. Donc déjà peut-être en termes techniques plus ou moins, comment ça se passe au niveau des outils au sein des CMA? Est-ce que vous utilisez du logiciel libre? Est-ce que vous avez...
Oui, on a fait un grand pas en avant il y a 3 ans quand on a créé la mission Libre et Éducation Nouvelle, où effectivement l'un des premiers actes qui a été posé par Pascal Gascoin qui a occupé cette responsabilité jusqu'au 1er septembre dernier, ça a été de soutenir le développement d'une plateforme libre qui s'appelle Zourit. Zourit, ça veut dire la pieuvre en créole. Et donc on a accompagné le développement de cette plateforme qui permettait de mettre en lien et en fluidité à la fois messagerie, carnet d'adresse, agenda partagé, visioconférence, voilà, quelques outils comme ça. Et donc aujourd'hui, tous les CMA utilisent Zourit au quotidien, et donc toutes les associations territoriales des CMA, ici ou ailleurs, utilisent Zourit. Et donc ça a été... Il y a eu deux chocs. Le premier, c'est le fait qu'on finance et qu'on participe économiquement au développement, donc on s'inscrive dans la logique de communauté et de soutien de cette entreprise, d'une association qui est basée à La Réunion. Et puis ensuite, après, qu'on arrive à convaincre chacun de nos camarades d'en faire un outil d'usage au quotidien. Et donc tout s'est pas fait en un jour, mais aujourd'hui, je pense que, sans me tromper, je pense que toutes les structures respectives des CMA utilisent Zourit.
Alors, je sais que Laurent voulait passer un petit temps sur effectivement Zourit, qui est un très bel exemple et très bel outil. Tu veux en parler tout de suite ou plutôt en fin d'émission?
Alors, moi, j'avais plutôt une question à Morgane pour savoir, elle, à quel niveau la prise de conscience s'était faite. Est-ce que finalement, c'est la rencontre avec Pascal, donc Pascal que tu as évoqué tout à l'heure, Pascal Gascoin, qui a été finalement un pivot dans ce processus-là, mais qui n'aurait pas pu agir s'il n'y avait pas une décision politique à un échelon du conseil d'administration? Ou est-ce que c'est finalement aussi par la formation que ça s'est consolidé? Parce que ça aussi, c'est quelque chose de central chez les CMEA, et je pense que ça a joué aussi en faveur de l'évolution de la prise en considération du libre au sein des CMEA.
Alors, moi, je suis arrivée au CMEA donc il y a 2 ans et demi, donc au même moment où Zourit en fait se mettait en place. De mon côté, ça a vraiment été Pascal qui a été un peu révélateur de plein de choses. Mais au niveau des CMEA, moi, je me suis entretenue avec plusieurs personnes, je travaillais à la Fédération Internationale, et c'est quelque chose qui est venu petit à petit. Donc, comme le disait Jean-Luc, en fait, il y a un moment donné où il y avait des personnes qui se sentaient concernées par cela et qui les ont portées à plus grande échelle. Donc, Pascal a pu faire ça dans sa mission, mais ensuite, il y a plusieurs associations qui se sont emparées de cette dimension-là et qui en ont fait quelque chose. D'où aujourd'hui le fait que Zourit soit devenu un pro-logiciel que la plupart des associations territoriales utilisent, et qui fait qu'en fait ça a pris énormément d'ampleur, et on aura l'occasion d'en discuter, mais Zourit a pris même de l'ampleur à l'externe des CMEA, et ce n'est pas anodin, je pense.
Merci. Alors donc effectivement, j'essaie de résumer, mais de fait il y a la rencontre entre des gens qui où ça résonne, quoi, où ça amplifie et ça converge, quoi. Je pense à Pascal. Toi qui as eu une action politique, ce qui est pas, parce que finalement, alors là, je prends ma casquette April Libre Association où on observe un peu cette question du libre dans les associations et où effectivement, dans tous les mouvements, dans toutes les fédérations d'éducation populaire, on repère des gens sur les territoires qui sont convaincus, qui sont politiquement convaincus, qui ont fait des choses. Mais c'est vrai que la jonction avec le niveau national, elle est pas effective, elle est rarement effective. Il y a rarement une convergence finalement qui fait que ça va résonner. Il y a des prises de conscience aussi au niveau national. Il peut y avoir des signatures de conventions, des choses comme ça, mais du coup ça ne converge pas. En fait, vas-y, je t'en prie.
Moi, il y a eu un déclic dans mon parcours personnel parce que je suis pas non plus. Je suis pas un bébé du libre. Hein. Il a fallu aussi me convaincre. Mais pour moi, le déclic, ça a été la rencontre avec Framasoft. Voilà, c'est-à-dire une soirée, université d'été des CMEA, un débat avec Framasoft. Et là, je percute, en fait, quand Pierre-Yves, il nous dit, mais la lutte du libre, c'est pas contre Microsoft ou contre Windows, quoi, c'est autre chose.
Pierre-Yves Gosset, qui est donc le délégué général de Framasoft.
Voilà. Et donc, moi, ça a été une révélation. En tout cas, ça a mis des mots sur ce que on m'avait déjà dit, que je percevais. Mais voilà. Donc, cette rencontre-là, elle a été fondamentale. Donc, par rapport à ce que tu dis sur la dimension politique, moi, je crois qu'aujourd'hui, si on veut que d'autres associations d'éducation populaire comprennent les enjeux, il faut démontrer les convergences en termes d'enjeux politiques. Et cet enjeu de la citoyenneté, de la démocratie, du pouvoir citoyen, du pouvoir d'agir, c'est l'enjeu central de tout ce qui se joue aujourd'hui, en grande partie autour du libre. Et le deuxième point, je trouve, qui est très fort, c'est la question de l'approche au commun, c'est-à-dire l'approche du collectif. Et ça, aujourd'hui, dans beaucoup de structures, beaucoup de mouvements d'éducation populaire, il y a cette volonté de continuer à agir au quotidien pour émanciper, c'est-à-dire donner à chacun les moyens de comprendre et les pouvoirs d'agir, et en même temps de le faire dans un cadre collectif avec d'autres. Ça, c'est les deux enjeux forts que moi j'ai identifiés à ce moment-là dans le rapport au libre. Et c'est pour ça que j'ai dit, c'est pas possible qu'un mouvement comme le nôtre ne soit pas dans cette dynamique-là et ne comprenne pas l'enjeu politique qui est derrière le débat que nous avons et derrière les situations du quotidien.
Morgane ?
Je vais suivre Jean-Luc sur ce qu'il dit. Je pense qu'il y a une dimension déjà individuelle de chacun et de chacune quand on parle du numérique, en règle générale, où en fait on va se rendre compte que c'est très facile de parler de ce genre de sujet puisque les gens sont souvent alertes. En tout cas, s'intéressent à cette question-là et sont à même d'avoir une discussion autour de cela. Et après, il y a la question où nous, en tant qu'individus, quand on est des militants et des militantes de différentes associations, on prône certaines valeurs, on prône des engagements. Et le moment où on fait le lien entre le numérique à grande vitesse d'aujourd'hui et les engagements que l'on a en tant que militants et militantes, on arrive à construire des choses ensemble. Et je pense que Zurit, c'est typiquement ce genre de projet. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des engagements de la part d'un mouvement éducatif et qui, après, vont prendre de l'ampleur. En fait, quelles solutions on va essayer de mettre en place pour que dans le même temps, on puisse continuer à utiliser du numérique, puisque c'est la question aussi du lien avec la permanence du nouveau dans l'éducation nouvelle. Aujourd'hui, on ne peut plus faire sans le numérique. Et comment on fait pour trouver des alternatives? Et aujourd'hui, on a essayé d'en proposer.
Oui, apporter des solutions, parce qu'effectivement, le libre est longtemps resté dans « mais non, faut pas faire ça », mais sauf qu'il n'avait pas d'alternative. Alors on dirait vite utilisable par le commun des mortels, et c'était un souci pour le libre. D'accord. Alors j'essaye de résumer, par rapport à ce qu'on vient de se dire. Donc effectivement, il faut des gens convaincus qui vont finir par se croiser et convaincre. Il y a des rencontres et des réseaux, donc la Framasoft, typiquement, ça a joué pour convaincre. Il y a la formation, pour moi ça me semble, enfin je le mesure là après un mois passé, mais ça me semble effectivement extrêmement important dans le processus aussi. Et puis vous avez un facteur complémentaire aussi, je pense au CMEA, qui est un technicien compétent et militant. On en a parlé tout à l'heure en introduction, mais je termine là-dessus et après je repasse la parole à Étienne. Mais effectivement, on va le citer, François Audirac, qui est au système d'information des CMEA et qui par ailleurs est président d'un groupe d'utilisateurs de logiciels libres dans sa région, quoi. Donc c'est quelqu'un qui a à la fois technicien et qui est par ailleurs absolument convaincu politiquement. Et en interne, c'est précieux.
Merci Laurent, et très bien cette petite synthèse, et bienvenue, parce que je vous propose de faire une courte pause musicale. Nous allons écouter Sa part par Tintamarre. On se retrouve dans environ 4 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1.
C'était la face à Montréal, à New Orleans. On va t'attendre à la maison. Oh ouais, ça part en voyage, quand ça plus rien à faire. Oh ouais, ça part en voyage, quand on met main dans ses affaires. Oh ouais, ça part en voyage, quand ça se trouve plus dans sa tête. Oh ouais, ça part en voyage, quand ça sent plus belle. Changeant ou de la conception différente du temps, ouais, rendu là, qu'est-ce qui va être différent? Est-ce que toutes les cultures cachent le même genre de gens? Oh ouais, ça part en voyage avec des sacs et des canages. Oh ouais, ça part en voyage avec du confort malléable. C'est toujours la même journée. C'est qui de vrais amis? C'est moi, c'est quoi ta lutte? C'est toujours le même mur sur lequel tu veux. Dis-moi, c'est quoi ta lutte? C'est qui tes vrais amis? Tu vois, tu fais sur le plafond, c'est toujours écrit. Qu'est-ce que je crée ici? Pas une chose qui est bien, quand on sent plus rien, tu veux pas que tout. Et le matin, c'est pareil, ouais.
Nous venons d'écouter Sa Part par Tintamarre, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, CC BY SA. Tintamarre est décrit sur le site ziclibre en bib.fr, grâce à qui nous avons découvert ce morceau. Donc, Tintamarre est un collectif d'une dizaine de musiciens de Montréal qui délivre une musique pleine de fanfare rock, de post-punk folk et de paroles contestataires. Voilà, vous pourrez retrouver ces informations là sur ziclibre.bib.fr. Pardon, le lien sera bien sûr en référence sur le site de l'April.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous. Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis en podcast.
Alors, je mentionnais le site de l'April, mais je vous rappelle que nous avons un tout nouveau site, libreavou.org, qui est en préouverture. Là, vous pourrez par exemple retrouver les références de cette émission sur libreavou.org/116116, comme le numéro de l'émission. Donc, nous allons poursuivre notre sujet, notre discussion. Je suis donc Étienne Gonu de l'April, et j'ai le plaisir d'échanger avec Laurent Costi, Jean-Luc Cazaillon et Morgane Perroche sur les CMEA et leur rapport au logiciel libre. Alors on a un petit peu évoqué, je pense, en première partie d'émission, et peut-être qu'on pourrait revenir justement sur une question qui me paraît parfaitement d'actualité. Ça n'aura échappé à personne que nous sommes dans le cadre d'un contexte d'une pandémie mondiale. On a passé un certain temps aussi en confinement et on sait voilà, que ça a pu avoir certains impacts. Et j'imagine notamment dans le cadre de votre travail. Qu'en est-il ? Tu peux nous en dire quelque chose, Morgane ?
Alors, au niveau de l'international, il y a plusieurs choses. Donc, pour refaire un petit peu de lien avec ce que Marie-Odile nous a dit en début d'émission sur la question de la marchandisation des savoirs, nous, je le disais aussi au début, c'est qu'on travaille sur la question de la marchandisation de l'éducation. Donc, on milite contre la marchandisation de l'éducation. Et aujourd'hui, à échelle mondiale, donc il y a eu tous ces épisodes de confinement, de Covid, enfin, peu importe les mots qu'on a employés à échelle mondiale, mais en tout cas, il y a eu un énorme essor de l'utilisation des outils du numérique. Et aujourd'hui, il semble nécessaire de devoir se réintéresser à ces questions-là, de quels outils on peut mettre en place à échelle mondiale pour lutter contre les grands de la technologie. Donc nous, au CMA, on essaye de porter cette voie-là. Donc on a déjà parlé de Zurit, mais c'est vraiment de faire comprendre en fait aux organisations, de faire comprendre aussi au système éducatif qu'il est nécessaire de devoir trouver des alternatives qui ne collectent pas les données des individus. Donc aujourd'hui, les CMA sont présents sur différents réseaux et donc nous, on travaille beaucoup avec un réseau européen qui s'appelle Solidar, où aujourd'hui, on a pu mettre en avant la dimension de la marchandisation de l'éducation au niveau européen, donc devant la Commission, etc. Donc il y a des choses qui sont en cours au niveau politique, à plus grandes échelles. Alors ça prend du temps, on le verra même en France où aujourd'hui il y a des choses qui ont été proposées par le ministère de l'Éducation nationale mais qui sont, à notre sens, pas forcément mis en avant ou suffisamment mis en avant à défaut d'avoir, en fait, enfin, au détriment plutôt d'avoir des Microsoft, des Windows qui sont encore dans les écoles. Et ça, c'est un réel combat qu'on doit mener au niveau des CMA. Et c'est un combat qui est mené en France aujourd'hui, mais qui à échelle mondiale intéresse beaucoup de personnes dans le système éducatif, enfin dans les différents systèmes éducatifs que l'on a à échelle mondiale.
Alors peut-être enchaîner justement sur l'outil qui a été promu un peu dans ce cadre-là. On en a parlé à plusieurs reprises, mais Zurit, du coup, a été développé par les CMA en appui avec une structure qui est sur l'île de La Réunion, d'où le nom d'ailleurs, hein, que tu évoquais tout à l'heure, Jean-Luc. Voilà. Alors c'est quoi Zurit pour l'expliquer assez rapidement? Pour l'expliquer rapidement, on va dire que c'est une agrégation de plusieurs logiciels libres, mais qui ont été rendus facilement accessibles, facilement compréhensibles. Hein, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'est vrai que les débuts du libre étaient un peu compliqués parce que les interfaces n'étaient pas forcément jolies. Enfin, on ne pouvait pas concurrencer des grosses structures commerciales qui avaient des designers à foison et puis qui avaient énormément d'argent pour faire développer les magnifiques logos qui brillaient. Alors effectivement, les gens qui ont l'habitude de travailler sur une interface en noir et blanc, ça les dérangeait pas, hein, ce qu'on appelle généralement les geeks, mais néanmoins, pour l'utilisateur qui avait l'habitude de ces logos brillants, c'était un peu compliqué. Donc l'idée de Zurit, c'est de dire on va agréger des outils libres, alors évidemment très attaché à la question du libre, dans une interface et centraliser les objets de ces outils-là, quoi. Donc voilà, on y retrouve de l'édition collaborative, on y retrouve le moyen de gérer ses mails, son agenda, ses contacts. On utilise finalement un logiciel libre qui existe depuis très longtemps, qui s'appelle Zimbra, qui est assez connu et qui est pas mal utilisé. On facilite la question des listes de diffusion, les sondages. On peut y déposer des fichiers dans un nuage, qui peuvent évidemment, les fichiers peuvent être partagés par les utilisateurs de Zurit. On peut gérer les accès pour les administrateurs de la session. Il y a l'option maintenant visioconférence. Potentiellement, on peut y adjoindre un autre logiciel libre qui permet de gérer son association de manière plus globale, qui s'appelle Garadine, par exemple. On peut synchroniser ses données entre son téléphone et son ordinateur. Donc, finalement, Zurit, c'est pas un nouveau logiciel qui a été inventé à partir de zéro, mais bien finalement une agrégation et une mise en beauté, on va dire, ça, soyons poétiques, une mise en beauté de plein de logiciels libres, pour répondre vraiment aux besoins de structures. Alors certes, d'abord, il a été utilisé en interne pour répondre à cette logique des CMEA que d'abord se confronter au quotidien. Donc il y a eu pas mal d'échanges avec les différentes communautés de logiciels pour faire remonter des bugs, poser des questions, comprendre, etc., et alimenter et contribuer. Et puis après, avec la pandémie, c'est vrai que c'est développé un peu un service potentiel aux associations, un service contre rétribution, hein, pour payer l'hébergement. par exemple, pour que les associations puissent utiliser simplement ces outils-là. Alors on notera, je trouve que c'est intéressant, mais par exemple, les associations payent à la quantité d'espace de stockage. Alors c'est plus du tout dans l'air du temps, hein. Google offre gratuitement des espaces de stockage pratiquement infinis, mais les CMEA tenaient à ça par rapport à la question de la sobriété numérique. Il faut que les gens prennent bien conscience que une quantité de données, ben, ça se met sur un serveur, ça demande de l'énergie, de l'électricité pour entretenir cette quantité de données, etc. Donc il y a eu plein de réflexions autour de cette constitution et de cette création de Zurit. Voilà, ça c'était pour vous donner un peu un exemple de ce que pouvait être Zurit.
Merci beaucoup. Alors ça m'évoque beaucoup de choses, mais est-ce que Morgane ou Jean-Luc, vous souhaiteriez apporter des précisions sur ce que vient de dire Laurent ?
Non, Laurent est complet. Donc voilà, je pense que pour ceux qui ont envie d'en savoir plus, il faut aller voir. Il faut aller voir sur... faut taper zurit.net et puis aller voir ensuite. Voilà, ça se fait sans l'idée. Moi, ce que je veux simplement dire, c'est que tu faisais référence au confinement. Vous faisiez référence au confinement et au monde associatif, mais le monde enseignant a beaucoup utilisé aussi Zurit, par exemple, durant la période du confinement. Pour deux raisons. La première, parce qu'effectivement, ils trouvaient techniquement avec Zurit les moyens de répondre à des besoins qui étaient les leurs, donc de constituer des groupes classes, de pouvoir faciliter le lien entre les enfants, voilà. Donc, mais aussi par choix politique. Durant le confinement, on a été quand même abreuvé de propositions, de plateformes de nature propriétaire, marchande. Et qu'il y a aujourd'hui aussi un enjeu à chercher des solutions libres. C'est-à-dire qu'ils s'inscrivent dans la philosophie de ce que l'on évoque depuis le début de cette émission. Et donc beaucoup d'enseignants, des écoles même, parfois complètement, collège, lycée, ont trouvé dans Zurit la convergence à la fois d'un choix politique, d'une motivation, et puis d'une réponse technique adaptée à leurs besoins. Et ça, c'est important de le souligner.
Alors, ouais, je vais juste ouvrir une parenthèse avant de rendre la parole à Morgane Perroche sur un autre outil, et on parlait plutôt de l'importance voilà, aussi de qu'il y ait des forces vives au sein des structures et des mouvements comme les CMEA, mais aussi il y en a au sein du ministère, et on sait qu'une poignée d'agents ont bataillé et ont mis en place des outils libres, apps.education.fr. Ils ont dû batailler, et maintenant finalement ils sont soutenus par leur hiérarchie, et ils ont offert voilà, aux enseignants aussi des outils librement disponibles, et je tenais à saluer leur excellent travail. Morgane Perroche.
Alors pour revenir juste sur Zurit, honnêtement, moi quand je vois ce qui est devenu Zurit aujourd'hui et la façon dont je l'utilise donc au quotidien, puisque je travaille complètement avec ce pro logiciel, ça répond un petit peu à ce qu'on disait en début d'émission sur la question de l'esthétique du libre, la facilité d'utilisation, etc. Zurit prouve que c'est complètement possible aujourd'hui d'utiliser des logiciels libres qui correspondent à nos attentes, à nos besoins, en tout cas en tant qu'organisation d'éducation populaire. Et je salue en fait toutes les personnes qui ont travaillé à l'élaboration de ce pro-logiciel et qui font en sorte que ça fonctionne encore aujourd'hui. Et je souhaite que ça puisse perdurer dans le temps et que ça donne aussi envie à d'autres organisations de pouvoir créer par elles-mêmes leur pro-logiciel, enfin en tout cas de s'en donner les moyens. Et qu'aujourd'hui, pour répondre à cette question de « oui, mais bon, c'est plus facile avec tel ou tel logiciel propriétaire », oui, mais on peut très vite aussi changer nos habitudes, c'est possible, et c'est toujours la dimension politique que l'on donne à changer nos habitudes. Et pour revenir sur ce que toi tu disais, Étienne, sur la question des outils qui sont proposés par le ministère, c'est pareil, pour moi c'est un élan d'espoir vis-à-vis de ce qu'on peut faire, et maintenant le but c'est que ce soit encore, enfin qu'il y ait davantage de communication là-dessus, que les enseignants et les enseignantes soient au courant en fait que ces outils-là existent, puisque malheureusement je pense qu'on est au début de tout ça et qu'il y a peu de communication là-dessus et qu'on est encore sur des logiciels propriétaires.
Tout à fait, et on voit en fait la différence, là il y a eu une initiative et comme ça fonctionnait très bien, bon ça a été à peu près soutenu, et on voit vraiment la différence de ce cas de figure avec une vraie politique publique, une approche systémique en fait, où on donnerait véritablement une priorité au logiciel libre dans les usages, que ce soit en tant qu'outil à disposition des enseignants, en tant qu'objet d'éducation. Voilà, on n'enseigne pas le rapport à l'informatique avec des outils privateurs, mais on l'enseigne bien de manière émancipée avec du logiciel libre, ce qu'est le logiciel libre, etc. Et je pense que cette distinction est importante, et elle manque encore clairement en termes de politique publique. Laurent, tu voulais reprendre la...
Oui, mais en fait je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'on est en train de passer en revue différents outils, différentes structures qui mettent en place des solutions, et finalement c'est encourageant parce que ça donne l'impression qu'on va quand même vers une décentralisation d'Internet. Voilà, c'est peut-être les prémices de la décentralisation d'Internet où finalement l'utilisateur va pouvoir choisir entre plein d'objets en fonction de ses besoins, et puis surtout ne pas laisser ses données sur des structures centralisées. Alors certes, oui, s'il utilise Ouvrite.net, il va laisser sur les serveurs, mais encore une fois, toutes les garanties sont données par la structure, mais au moins, il va pas mettre ça dans un unique silo comme quand on fait ça chez les GAFAM, etc. Et du coup, ça limite le profilage, ça limite tous les effets néfastes que nous, à l'April, évidemment, on dénonce.
Voilà, et bon, je pense que, alors, je sais pas si tu voulais revenir à là, mais on sait qu'il y a l'initiative, on parlait de Framasoft, ils ont donc leur excellente initiative Chaton, hein, alors je vais le tenter sans note, le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires.
Parfait.
Et qui effectivement sont dans cette approche éthique et d'un internet fédéré basé sur des outils de confiance, sur du logiciel libre, parce que il y a pas de confiance sans transparence non plus. On délègue toujours de la confiance, mais bon, faut savoir sur quelle base on la délègue et quand on peut aussi. Et en fait, je pense que c'est ça qui est intéressant les chatons, et je pense que c'est assez cohérent Alors, Jean-Luc Cazaillon, le masque de Jean-Luc Cazaillon vient un peu de casser. Bon, ouais. Voilà.
Il l'a fait exprès.
Je pense qu'on est tous masqués. Si à un moment donné c'est trop inconfortable, on pourra se.
Tu voulais parler peut-être de la convention qui liait les CMA et Framasoft.
On peut venir à ça. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est en fait, ça ramène de l'humain et ça ramène une dimension de proximité. C'est-à-dire qu'en fait, quand c'est des géants un peu éthérés, le service est là. Alors, on peut discuter de sa pertinence, mais quand on peut rencontrer quelque part et que les structures se rapprochent de nous, je trouve que ça change complètement le paradigme. Et du coup, effectivement, donc il y a une convention où, voilà, quel est le lien, quelle est l'action des CMA vis-à-vis de ce collectif Chaton. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant aussi, et que nous, on pousse à l'April par rapport notamment au collectif, enfin au pouvoir public. C'est bien d'utiliser le logiciel libre, mais c'est encore mieux quand on contribue, quand on devient véritablement acteur et contributeur et contributrice des projets libres et du logiciel libre en général. Et voilà, le chaton est un bel exemple de ça. Jean-Luc Cazaillon.
Sur les chatons, je ne suis pas le mieux placé pour répondre, parce que moi, il a fallu qu'on m'explique plusieurs fois ce que c'était. J'ai bien compris le sens et l'intérêt, mais je ne suis pas le mieux placé pour répondre. Ce que simplement je peux dire, c'est qu'effectivement, d'une part, la collaboration avec Framasoft, elle s'inscrit aussi dans une histoire, et les CMA ont été à la Réunion très mobilisés. C'était encore Pascal Gascoigne, à l'époque, il était réunionnais, dans l'accueil des mondiaux du libre, par exemple.
Des rencontres mondiales. Délocalisées.
Voilà, des logiciels libres. Donc ça c'est une collaboration, une histoire aussi forte, mais la rencontre, elle se fait sur la complémentarité, c'est-à-dire Framasoft a besoin de découvrir ce qu'est le monde de l'éducation populaire, et nous on a besoin de Framasoft pour aussi utiliser à la fois leur réflexion politique et leur capacité aussi eux-mêmes à développer les choses. Donc c'est cette complémentarité et cette convergence d'analyse et de lutte d'une certaine façon qui donne le sens de cette collaboration. Et puis tu as raison, Étienne, on est rentré dans Zurit par le fait de soutenir le développement de Zurit. Et ça, pour moi, c'était fort déjà de pouvoir se dire que, au lieu d'acheter quelque chose, on allait soutenir un développement porté par une association, et qu'on a contribué nous aussi, et qu'on contribue aujourd'hui dans l'approche collective à faire progresser cet outil-là. Et ça, c'était génial.
Morgane Perroche.
Mais je pense que j'ajouterais aussi, en revenant sur ce que tu dis, Jean-Luc, en tant que mouvement d'éducation populaire, on est dans une dimension, on est dans l'idée de que chacun et chacune est acteur ou actrice de son éducation aussi. Et la question du libre, au-delà de l'aspect technique qu'on peut avoir, et où des fois on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça, comment ça fonctionne, parce que moi j'ai découvert le libre de façon plus avec une vision politique qu'une vision technique, où je disais à tout le monde mais non, en fait. Faut pas compter sur moi, j'y arriverai pas, etc. Mais en fait, si, et du coup, c'est de mettre tout le monde, de dire à chacun et chacune, en fait, il est possible aujourd'hui de trouver des alternatives, et en plus de ça, tu peux y contribuer. On te demande pas de passer des heures et des heures derrière un ordinateur, loin de là, mais il y a plusieurs façons de contribuer au libre aujourd'hui, puisque c'est la notion de commun, et Mario G nous en parlait avec Wikipédia juste avant, et on peut le faire de plein de façons différentes, et tout ça, vous avez toutes les références, je pense, sur les différents sites qui ont été nommés précédemment.
Voilà. Et puis, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec des associations comme l'April, comme les CMEA. Mmh. Il y a des groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices logicielles qui seront ravis aussi de vous accompagner dans la démarche. Laurent.
Oui, je voulais revenir sur la question d'éducation populaire. Alors, d'abord, préciser que les CMEA, c'est un mouvement d'éducation nouvelle et une association d'éducation populaire. Je crois que j'ai retenu ça du congrès. J'espère
ouais,
que
c'est
bon.
Bien, c'est bien.
Voilà. Là, j'ai bon. Merci. C'est parfait. Et oui, effectivement, et c'est pareil, l'éducation populaire, elle reste d'actualité. La preuve, Framasoft se revendique désormais d'éducation populaire et a demandé l'agrément éducation populaire. Donc on, c'est là aussi qu'on converge aussi entre associations et entre réseaux et qu'on se reconnaît et qu'on est capable après de travailler ensemble et d'aller un peu dans le même sens avec chacun nos spécificités, notre histoire évidemment. Mais voilà, c'est vraiment une question actuelle et l'éducation populaire a bien raison de se saisir de cette thématique-là qui me paraît essentielle.
Tout à fait. Alors, on parlait des chatons justement, l'objet n'étant pas d'en discuter ici, mais si nos auditeurs auditrices souhaitent creuser le sujet, vous pouvez retrouver l'émission qu'on avait consacrée où on avait discuté en détail taille des chatons, libreavoue.org/30. Laurent, justement, tu disais, tu sembles voilà, apprendre finalement les CMEA et je trouverais intéressant que tu nous dises, toi qui viens d'arriver, comment t'as perçu finalement toi, de ton regard, hein, on parle parfois de rapport d'étonnement, comment tu perçois justement, avec ton regard April notamment, ton expérience par rapport au logiciel libre, tu arrives dans ces structures. Comment tu as perçu un petit peu tout ce qui avait été mis en place?
Oui, alors en fait, j'ai un petit peu répondu tout à l'heure à la question. En fait, je m'interrogeais, j'avais ce regard aussi libre association de savoir mais pourquoi ça a bien marché au CMEA en fait. Donc j'ai donné un peu des éléments de réponse. Hein. Il y a la question des personnes. Pour moi, finalement, c'est assez essentiel le croisement des personnes. Ça, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, quand on regarde les mouvements d'éducation populaire, on trouve sur tous les territoires des militants qui sont convaincus du libre, qui font des actions, qui essayent de les promouvoir à leur réseau en le faisant remonter et il y a souvent une prise de conscience politique mais la jonction reste assez ténue finalement, il n'y a pas une convergence on va dire. Donc là ça a fonctionné parce que c'est la rencontre de personnes à un moment donné au bon moment, plus effectivement, et ça c'est primordial, moi j'avais constaté dans mon propre réseau quand j'étais à la Fédération Française des MJC, il faut faire venir parler quelqu'un d'extérieur. Ce que j'expliquais toujours, c'est que quand moi je parlais de logiciel libre à la Fédération Française des MJC, les gens se disaient « Oh non, encore Laurent qui va nous parler de ces trucs-là » et hop, les gens fermaient leurs oreilles et arrêtaient d'écouter. Alors qu'en fait, quand on venait faire intervenir quelqu'un qui disait exactement la même chose mais qui venait de l'extérieur, les gens se disaient « Ouais, mais finalement, Laurent, il dit peut-être pas que des bêtises, quoi. » Et donc, du coup, ce tiers regard, cet tiers intervenant, il est primordial. Et c'est exactement ce qu'expliquait Jean-Luc tout à l'heure. C'est quand Framasoft est venu redire ce que Pascal disait depuis déjà des années au sein des CMEA, que le déclic s'est produit, quoi. Donc ne pas négliger ce point-là, je pense qu'il est assez central dans le déclenchement des processus. Donc voilà, après ce que je découvre c'est toute la machine formation qui me semble vraiment très très, très très avancée au sein des CMEA et qui aussi joue un rôle primordial, on peut pas le négliger, c'est-à-dire que y a une machine qui se met en place chaque année sur les formations programmées, donc très tôt en amont on sait qu'à telle date il y aura une formation Zurich, donc les associations territoriales peuvent s'y inscrire, se former, et après on est aussi dans le déclenchement de formations de formateurs qui vont pouvoir relayer sur le terrain. Donc on a vraiment un effet qui permet de démultiplier l'efficacité des messages qui sont passés sur le thème du libre, mais après c'est évidemment tous les thèmes qui sont travaillés au sein des CMEA, quoi. Donc voilà, moi c'est ce que je découvre depuis un mois, hein. c'est une grosse machine, alors c'est qui est pas du tout organisé comme mon réseau précédent, mais qui a une force de frappe assez intéressante sur cette logique là.
Super. Alors peut-être une question qu'on peut se poser, donc maintenant que vous êtes riche aussi d'une expérience, d'un parcours, quel bilan vous en tirez? Est-ce que vous avez notamment identifié des difficultés? Et je pense que ça pourrait intéresser notamment d'autres structures qui pourraient nous écouter, de savoir voilà, qui auraient cette envie de s'engager. Est-ce que vous y avez des difficultés clés que vous avez perçues et que vous avez pu surmonter et comment vous avez...
Avant de parler des difficultés, en écoutant Laurent, je me disais... Ce qui est assez intéressant au fil des années, c'est que cette question, l'enjeu que l'on évoque là, du logiciel libre, a pénétré quasiment tous les champs d'intervention des CMEA. C'est-à-dire, grosso modo, c'est pas quelque chose qu'on réfléchit à part ou à côté de l'école, de l'animation, du travail social, de la culture. Mais au contraire, ça vient irriguer l'ensemble des champs. Et ça, je trouve ça intéressant parce que c'est aussi une problématique qu'on pourrait aborder sous l'angle culturel. On parle bien de culture d'entreprise, on a aussi des cultures de logiciels, et donc voilà, donc ça c'est une évolution qu'on a pu mesurer au fil des années, et notamment aussi à travers la dimension européenne internationale, parce que les plateformes qu'évoquait Morgane tout à l'heure, notamment elle évoquait Solidar, ça regroupe des syndicats à l'échelle européenne par exemple, et voilà comment aujourd'hui un syndicat s'empare de ces questions-là, qui est un enjeu politique mais qui est aussi un enjeu d'usage. Donc voilà, ça c'est un premier effet positif, voilà.
Moi, je suis très sensible à cet argument, et or, toutes les structures ont leur cœur de métier, un peu l'objet de leur lutte. Mais moi, je crois à, finalement, à l'approche un peu holistique, on va dire, de l'objet politique et de l'éthique, et la moyen dont on met en œuvre, les manières dont on met en œuvre dans la pratique, matériellement, finalement, l'objet de notre lutte sont essentielles. Donc, ça va être de prendre en compte aussi les questions d'antisexisme, par exemple, d'antiracisme, etc. De comment on pratique au quotidien. Bien sûr, ça ne fait pas en faire l'objet principal. L'objet des CMEA, c'est pas la défense du logiciel libre, mais je trouve très intéressant comment effectivement tu évoques que ça fait partie des pratiques et que ça irrigue en fait tous les champs. Ouais. Et voilà, je tenais à signaler que j'étais vraiment sensible effectivement à ce point moi aussi.
Oui, je pense que c'est un enjeu important, surtout dans un mouvement comme le nôtre, parce que les champs qu'on évoque, il y a un risque. Hein, le risque, c'est d'avoir des tuyaux d'orgue ou des boîtes tupperwares, c'est-à-dire des choses fermées qui ne communiquent pas ou à la marge. Et tout le travail que j'ai conduit, entre autres, mais qui a été aussi porté par Morgane, entre autres, et Laurent aujourd'hui, c'est d'arriver justement à trouver ces éléments de transversalité, ces éléments de pénétration, qui fait que les problématiques ne sont pas les unes à côté des autres, elles sont forcément étroitement mêlées. Et le monde de l'animation, par exemple, à travers les pratiques des jeunes, les pratiques du quotidien, ne peut pas être absent de la réflexion que l'on porte là sur le rapport au libre. Ça a même commencé par là, il y a 30 ans, quand on disait qu'on allait monter un groupe jeux vidéo, on se faisait tuer parce que c'était pas un jeu traditionnel comme les CMEA aiment parfois les promouvoir. Donc voilà, 30 ans après, le jeu vidéo fait partie d'un univers du quotidien. On voit que ça peut créer du collectif aussi. Voilà, donc tout le rapport au numérique peut pas être absent d'un quotidien dans lequel les militants sont également engagés. Donc cette dimension de transversalité et de pénétration, elle est fondamentale pour justement en faire un objet commun et pas des objets spécifiques, ce qui aussi permet de résister à une première approche qui a été une difficulté, c'était de dire c'est un débat de geek, c'est un débat de spécialiste. Et c'est vrai que ça a été pendant très longtemps perçu par un grand nombre d'entre nous comme étant un débat de spécialiste. Ceux qui étaient capables de dire en quoi le libre était différent du propriétaire et ceux qui ne l'étaient pas. Et c'est pour ça que tout à l'heure j'évoquais le fait qu'il faut passer d'un débat de spécialiste à un débat de citoyen, donc un débat de militant. Et ça prend du temps, et c'est par l'approche politique au sens large du terme que l'on arrive petit à petit à ramener cet élément-là pour en faire un objet central qui est une réflexion toujours en cours, quoi. Donc cette difficulté-là, elle est encore présente moins maintenant, mais c'est pas un débat de geek, quoi. Et c'est pas des fous furieux d'un côté qui passent une nuit pour développer un logiciel quand d'autres
qui culpabilisent potentiellement les personnes en disant ah là t'es pas encore sous système d'exploitation libre,
comme j'y comprends rien je peux rien dire. Voilà. Non, mais je te demande pas d'intervenir comme tu peux le faire Laurent ou comme d'autres peuvent le faire pour développer un logiciel ou comme Morgane ne sait pas le faire. Et heureusement qu'elle sait pas le faire, parce que c'est grâce au fait qu'elle sache pas le faire, ça empêche pas pour autant d'avoir un débat politique et une réflexion sur justement l'approche marchande. Et cette question de la marchandisation que Morgane évoque depuis tout à l'heure, elle est fondamentale. Regardez comment les industries du numérique se sont engouffrées dans les pays dits en voie de développement pour développer des kits prêts à penser, prêts à éduquer. C'est pas de la philanthropie, hein. C'est du business, hein.
Je suis complètement en accord avec ce que dit Jean-Luc. À partir du moment où on a compris que nous sommes tous et toutes politiques, dans tout ce que nous faisons, il y a du politique partout. Les difficultés qui sont rencontrées aujourd'hui, moi, je pense que ça a été la question. Enfin, c'est toujours l'étiquette des habitudes qui est sortie. Moi, quand je travaille avec différents partenaires, avec différentes personnes, c'est toujours oui, mais bon. Voilà, ce que je disais auparavant, mais j'utilise ce logiciel-là, donc sans les citer, hein, mais on les connaît très bien. Et du coup, c'est facile. Et puis tout le monde a ça. Et en fait, on se rend compte aussi qu'il est facile de les changer. Moi, je vois à l'échelle individuelle de mon côté où j'ai fait un peu de ce qu'on appellerait de la propagande dans mon entourage et qu'aujourd'hui, on est capable d'avoir plus de discussions sur Signal que sur une autre plateforme, en fait. Une autre plateforme de messagerie instantanée. Et ces personnes-là se reconnaîtront. Et en fait, et après, plus on arrive en fait à proposer à chaque fois des solutions, parce qu'à chaque fois qu'on arrive avec ça, il faut qu'on soit capable d'amener des solutions. Et donc, par exemple, moi, quand j'ai des rendez-vous avec des partenaires, etc., il y a eu toute la question des visioconférences, c'est de dire, au lieu de me donner votre Zoom, là, on va vous donner un petit lien Big Blue Button, vous allez voir comment ça fonctionne. Et en fait, on force un peu la main. Enfin, moi, je sais que je force un peu beaucoup la main avec certaines personnes sur « je t'envoie un lien Big Blue Button ». Et en fait, le fait que voilà, les gens soient, ce soit la première fois, on leur explique un petit peu, puis au final, trouvent que l'outil est plutôt adapté ou simple d'utilisation. Et puis derrière, on arrive avec des... Enfin, on peut avoir cet argument-là en disant « oui, mais si j'utilise ça aujourd'hui, c'est pour des raisons qui sont purement politiques. Et toi, en tant qu'organisation, si tu penses défendre des engagements, dans ces cas-là, tu ne peux pas ne pas tenir compte de la dimension du logiciel libre. » Et Étienne, tu disais « nous ne sommes pas des défenseurs du logiciel libre, mais en fait, c'est... » Enfin, là, c'est plutôt l'inverse. C'est que oui, nous sommes des défenseurs du logiciel libre aujourd'hui, en fonction de ce que nous souhaitons amener dans la société et quels changements nous amenons avec l'éducation. Donc, de fait, nous sommes des promoteurs et des promotrices du libre.
Parfaitement dit. Non, mais super. Oui, Pascal, Jean-Luc Cazé.
Oui, parce que tu me posais la question sur les difficultés. Il y a une deuxième difficulté, en tout cas un paramètre, un facteur de réalité qui joue pas forcément toujours, qui n'a pas joué forcément toujours en faveur du libre, c'est le rapport au temps. C'est-à-dire soutenir le développement, ça prend du temps, et ça prend plus de temps que d'acheter un logiciel clé en main. Et cette question du rapport au temps, elle est aussi extrêmement importante au sein des CMA, mais n'importe où. Et je pense que ça aussi, il a fallu, il faut encore par moment résister à la facilité de l'achat d'un logiciel propriétaire, quand par ailleurs on pourrait soutenir ou s'engager dans une communauté pour prendre un peu de temps et développer un logiciel ou un progiciel ou en tout cas une plateforme qui soit libre, quoi. Et ça, ce facteur temps est important aussi. Il a joué dans beaucoup de décisions internes, mais je pense que c'est valable à d'autres endroits.
Sans doute. Laurent, tu souhaites réagir?
Oui, je t'en...
Et on arrive sur la fin, donc je
termine juste. Je tempérerai un tout petit peu les propos de Morgane en disant c'est facile de changer ses habitudes. En fait, ça dépend des personnes. Donc il faut être prudent sur la manière dont on amène ça. C'est-à-dire que voilà, il y en a effectivement, changer leurs habitudes, ça va être compliqué. Il faut les accompagner, ça demandera plus de formation. Donc voilà, il faut vraiment être attentif à qui on s'adresse. Effectivement, il y a des gens qui sont agiles, qui ont l'habitude de changer de logiciel, ça va être hyper facile. Et puis il y en a d'autres, ce sera beaucoup plus compliqué. Voilà. C'est juste ça que je voulais préciser.
Et dans la même veine, moi je pense que justement, c'est rarement facile de changer ses habitudes, mais quand on en fait un objectif éthique et politique, ça remet de la joie un petit peu dans la démarche, et je pense que c'est comme ça qu'on peut faire. Et il est important, et je pense qu'on sera d'accord sur table, il n'est pas non plus l'objet de culpabiliser qui que ce soit. Parfois on n'a pas le temps, et c'est une bonne raison. Parfois juste on n'a pas le temps de changer son habitude, et ça ne remet pas en cause sa cohérence. On fait tous des choix, mais l'important c'est de faire un choix éclairé et de savoir en fait quel choix on fait. On arrive vraiment sur la fin. Morgane, Jean-Luc, est-ce qu'en une minute chacun, une idée sur laquelle vous voudriez revenir, quelque chose que vous n'avez pas dit, que vous souhaiteriez quand même dire? Jean-Luc?
Je cherche ce que je n'ai pas dit, ce qu'aurait voulu dire, mais en fait, s'il fallait revenir sur une idée force, moi je crois beaucoup à la question de la dimension de l'émancipation et du projet d'émancipation. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que les associations d'éducation populaire, les mouvements éducatifs soient convaincus de la cohérence qu'il y a à réfléchir et à travailler autour de cette question du libre par rapport au projet associatif et aux ambitions éducatives, aux ambitions politiques dont nous sommes porteurs les uns les autres. Il y a forcément de la convergence et il faut absolument convaincre de la pertinence et de l'enjeu de cette convergence renforcée.
Morgane ?
Je rejoins une fois de plus Jean-Luc, et puis pour revenir sur ce que Laurent disait, effectivement il est important de pouvoir accompagner des personnes dans le changement de ces habitudes-là, et c'est aussi notre rôle à nous en tant que mouvement d'éducation populaire, enfin association d'éducation populaire pardon, parce que on est dans une dimension de formation, donc on accompagne les gens aussi au changement, et là c'est notre rôle. Donc j'ai espoir qu'en fait tout ça puisse évoluer. Il y a des choses qui ont bougé, moi je pense on en discutait déjà auparavant, mais le libre a beaucoup changé, ça n'a plus du tout la même allure que ça avait avant, on en entend davantage parler, et il est nécessaire qu'aujourd'hui on puisse sensibiliser à ces questions-là par la dimension politique et d'accompagner toute personne qui souhaiterait, après en connaissance de cause, pouvoir modifier ses habitudes d'utilisation du numérique.
Parfait. Écoutez, notre temps arrive à la fin. Jean-Luc Cazaillon, donc ancien directeur général et militant au CMEA, et Morgane Perroche, permanente des CMEA et notamment sur les dimensions européennes et internationales du réseau. Un grand merci pour ce temps d'échange que j'ai personnellement trouvé très intéressant.
Merci à vous.
Je suis sûr que les auditeuristes également.